La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous écoutez
RMC.
Ça se rapproche.
C'est en route pour Paris 2024.
Et oui, ça se rapproche à grands pas. Hein. On compte évidemment les jours qui nous séparent de la cérémonie d'ouverture. Et c'est vrai que pour certains, bah, l'angoisse est encore là. L'angoisse de savoir s'ils vont participer à ces jeux ou s'ils vont rester en dehors. C'est toujours évidemment très tendu pour les athlètes qui ne sont pas qualifiés d'office, parce qu'il y en a quand même certains Français, notamment dans les équipes de sport, qui sont qualifiés d'office. Mais c'est pas du tout le lot de tout le monde. On en parle justement avec Laura Tarantola, médaillée d'argent en deux de couple poids léger, c'était à Tokyo en 2021. Laura qui est avec nous. Bonjour Laura.
Bonjour.
Laura qui est allée arracher même sa qualif pour les Jeux il y a quelques jours. Tu vas nous expliquer les régates de la mort. Alors, toi, tu es vice-championne olympique, mais tu as quand même été obligée d'aller batailler pour te qualifier pour les Jeux de Paris. On aurait quand même pu vous faire une faveur quand même, les filles.
C'est vrai qu'on aurait bien aimé, ouais, mais non, c'était pas le cas. Il fallait, tout est remis à zéro à chaque fois pour nous, et du coup, non, il fallait réussir à se requalifier une nouvelle fois pour ces Jeux, ouais.
Ouais. Même quand on est vice-championne olympique, il faut s'arracher, hein, parce que il y avait tout un parcours pour les qualifications, et là, c'était donc votre dernière chance, parce que vous étiez un petit peu raté jusqu'à présent avec Claire. Donc, il y avait des régates, les régates de la mort, les régates de la dernière chance, c'était à Lucerne, je crois, en Suisse, il y a quelques jours. J'imagine qu'il y avait un petit frisson dans le dos quand même avant de prendre le départ, non?
Oui, forcément, bah, c'est ça. En fait, on s'était loupé au Mondiaux l'an dernier, donc c'était les premières places qu'on pouvait prendre. Et là, du coup, c'était les derniers quotas disponibles à Lucerne. Et ouais, bah, forcément, c'est hyper stressant parce que, bah, il y a un fort enjeu, quoi. C'est, ça passe ou ça casse. Donc, forcément, il y avait beaucoup de stress. Mais on a réussi à revenir avec un quota pour les Jeux. Donc, l'objectif est carrément rempli. Et là, on va enfin pouvoir voir un peu plus loin et penser du coup à ces Jeux, parce que pour l'instant on était vraiment dans notre bulle pour Lucerne, quoi.
Ouais, un peu stressé évidemment avec Claire Beauvais, mais là vous avez montré que vous étiez les patronnes, que les patronnes étaient de retour quand même, hein. Je crois que vous avez explosé la concurrence, Laura.
Ouais, on a gagné face aux Grecs, et surtout, bah, on sort les Italiennes qui sont championnes olympiques juste devant nous à Tokyo, donc il y avait encore des grosses clientes, ouais, c'était vraiment pas fait d'avance, donc c'est pour ça qu'on est encore plus contente. Après, on verra bien notre niveau par rapport aux autres, du coup là pour l'instant on sait pas par rapport à celles qui sont déjà qualifiées, mais en tout cas là de réussir à avoir ce quota et d'être devant les Grecs qui nous ont battus toute la saison dernière, c'est des bons repères, quoi.
Elles étaient déjà qualifiées, les Grecs, ou non?
Non, les Grecs n'étaient pas qualifiés non plus.
Ouais. Alors il paraît qu'il y a les Anglaises qui sont intouchables maintenant. C'est vrai, Laura, ou non?
Oui, elles sont intouchables. En tout cas, depuis les Jeux de Tokyo où elles ont terminé 4e à 1/100 de la médaille, elles sont très revanchardes et là elles ont pris un sacré cran. Ouais. Après, le paquet derrière se rapproche petit à petit, mais elles arrivent toujours à revenir avec la victoire. Donc là, on va essayer de les challenger un peu et de ouais, nous en tout cas arriver à notre meilleur niveau à Paris, quoi.
Eh ouais, ça se rapproche à grands pas. Est-ce que ça va pas vous handicaper un petit peu, parce que quand t'as un double objectif, à la fois de te qualifier et puis ensuite de te préparer spécifiquement pour le jour J, est-ce que du coup vous avez engrangé du retard, ou au contraire justement d'arriver déjà d'avoir un premier pic de forme à quelques semaines du départ des Jeux, c'est plutôt bien? Comment tu
non,
juges ça?
Non, moi je pense que c'est plutôt bien. Bah, de toute façon, après on n'avait pas le choix. Oui, mais je pense que ça nous a vraiment aidé dans l'hiver, en tout cas, à pas laisser passer les jours, mais plutôt à être vraiment acteur tous les jours, parce qu'on savait que notre premier objectif était beaucoup plus proche que les Jeux. Et donc ça, je pense qu'au jour le jour, ça fait vraiment la différence. Et ensuite, bah, on le sait dans l'histoire, il y a plein de bateaux qui sont passés par la régate de Calife au mois de mai, qui à la fin sont très très bons sur les Jeux Olympiques. Donc je pense vraiment que ça peut nous aider en tout cas d'être déjà en forme à ce moment-là de la saison. Après, il reste 2 mois là pour encore prendre un cran. On n'a pas du tout envie de s'arrêter là. Donc là, c'est tout l'enjeu de la planification et tout pour réussir à voilà avoir ces 2 pics de forme au bon moment, parce que là, on l'avait bien pour le mois de mai et du coup, ben là, on va se remettre au travail pour arriver au top dans 2 mois quoi. Là, c'est sûr que maintenant, c'est l'objectif principal.
Et oui, 61 jours avant la cérémonie d'ouverture, votre compétition aura lieu au début des Jeux Olympiques ou plutôt un peu plus tard?
C'est ça, non, nous c'est au début, ça commence le 28.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc effectivement, il faut être prêt pour le début. Donc c'est pas ça. De cérémonie d'ouverture, ça aurait été bien de vous voir ramer sur la scène quand même avec les autres bateaux qui vont faire le défilé.
Ouais, c'est sûr, mais nous non, je pense qu'on va faire l'impasse sur la cérémonie parce que c'est juste avant nos courses et du coup... On va rester dans notre bulle et concentré pour les premières courses qui sont en général très importantes pour rentrer comme il faut dans le championnat et pas passer par les repêchages. Ouais.
Vous serez logé au village olympique ou alors plutôt du côté de Vers-sur-Marne, puisqu'il faut savoir que vous êtes un petit peu en dehors de Paris. Bon, c'est pas très loin non plus, mais comment ça va se passer pour Claire et vous et pour
l'équipe d'Aviron, on est à Vers-sur-Marne, ouais.
D'accord.
Parce que en fait, ça fait beaucoup trop de routes. On peut pas se permettre de faire 1 heure si on sait pas s'il y aura des bouchons ou quoi dans un bus.
Tu peux remonter la Seine et la Marne aussi, ça peut être sympa.
Ouais, c'est vrai, mais ça fait un peu too much comme échauffement.
Comme entraînement, ça fait un peu loin, ouais, effectivement. Parle-nous de ta relation avec ta coéquipière Claire Beauvais, avec qui tu rames depuis des années maintenant. Je crois que c'est une relation très forte. Vous êtes vraiment des véritables amis. Je pense que pour arriver à être performante, aller décrocher des médailles, connaître des moments un peu plus difficiles, il faut de toute façon être très proche de sa coéquipière ou de son coéquipier selon les bateaux, évidemment.
Ah oui, je pense. Nous, on a la chance d'être très soudés. Après, on est très différentes, mais du coup, hyper complémentaires. Et c'est ce qui fait notre force. Et je pense que le fait d'avoir vécu des moments incroyables, comme par exemple à Tokyo, mais en même temps des moments aussi très très durs à l'inverse, comme les Mondiaux l'an dernier, où c'était vraiment très compliqué. En fait, ça nous renforce. Et on sait que là, toutes les deux ensemble, on est prêtes entre guillemets à tout affronter, quoi. Et c'est ce qui fait qu'on a une confiance aveugle envers l'autre. Et quand on s'aligne sur une course et qu'on sait que l'autre donnera son 100% et que nous on a envie de se dépasser aussi pour l'autre quand ça fait mal, en fait ouais, on sait que dans tous les cas, peu importe la place, mais on sera à notre niveau quoi. Et nous on a vraiment cette chance là de bien s'entendre. Et là c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années, donc on l'a aussi beaucoup travaillé parce que c'était pas forcément quelque chose d'inné à la base, parce qu'on est très différentes, mais c'est ce qui renforce encore plus nos liens et notre solidarité quoi.
J'ai lu qu'il y avait d'un côté le calme et la réflexion, de l'autre la folie et la fougue. L'une est physique et endurante, l'autre explosive. Tu es laquelle, Laura, de ces deux-là?
Qu'est-ce qui te... Moi je suis la calme.
T'es la calme.
Ouais.
Et la réflexion, alors. Pour nos éditeurs, évidemment, tu avais un double projet parce que l'aviron ne nourrit pas son homme ni sa femme en France et que donc tu es diplômé d'une école de commerce, d'un master en école de commerce, c'est ça?
C'est ça, exactement, de l'école de commerce de Grenoble, ouais, c'est ça. Ouais. En France, c'est difficile pour l'aviron d'en vivre, du coup, chacun essaye de trouver des partenaires. J'ai de la chance aujourd'hui d'être accompagné par des partenaires incroyables, mais à côté de ça, voilà, j'ai dû continuer les études et du coup d'avoir un travail aussi à côté aménagé quoi.
Ouais, tu travailles à la SNCF, c'est ça?
C'est ça, ouais.
D'accord.
Je suis à la SNCF avec un contrat aménagé qui me permet d'aménager mon temps de travail en fonction des échéances sportives.
D'accord. D'accord, d'accord. Ils vont un peu miser sur toi et la SNCF au cours de ces Jeux Olympiques. On va voir un peu Laura Tarantola sur les affiches, dans les gares un peu. Tu vas, voilà, quand même, une championne française, vice-championne olympique. Voilà, il faut miser là-dessus, moi, je dirais.
Hein? Ouais, je crois qu'ils sont en train de travailler pour faire des choses. Ouais, ça va, je pense que ça va bientôt sortir.
Bon, et ben on a hâte de voir ça. Laura, on va te souhaiter un bon été, un bon début d'été. Hein,
merci à vous.
Faut rien lâcher là, évidemment.
Hein,
61 jours, ça va arriver très vite. Et on va croiser les doigts et vivement que ces jeux débutent.
Merci beaucoup, merci à vous.
À bientôt, Laura.
À bientôt, au revoir.
Avec une médaille autour du cou, et la plus belle cette fois-ci. Encore plus belle que la médaille d'argent de Tokyo. Il n'y en a qu'une qui est plus belle, c'est la médaille d'or. 13h43 sur RMC. Voilà pour le début de notre magazine olympique. Dans un instant, Arnaud Valadon va nous donner les dernières nouvelles. Est-ce qu'on peut aller faire un tour à Roland-Garros? Est-ce qu'ils sont sur place pour nous parler de Hugo Humbert, opposé à Sonego, l'Italien? Match difficile pour le numéro 1 français, Julien.
Oui, c'est Eric, je suis de retour, Christophe. Je sais que je t'avais manqué terriblement.
Ah bah oui,
donc,
non, mais attends, tu me quittes alors que voilà, tu m'abandonnes.
Bon, on a gagné le débat.
Ah bah là, on les a écrasés. Vraiment, oui, on les a écrasés tout à l'heure.
Réécoutez-le, c'était pas mal. Oui, écoute, situation critique pour Hugo Humbert, puisqu'il est mené 2-1 par l'Italien Lorenzo Sonego. Donc ce 4e set est vital. On est à 2-2. Et Hugo Humbert est à 15-30. Oulala, sur sa mise en jeu, il mettra une volée facile. J'ai peur. J'ai peur que le numéro en face passe à la trappe, allez. Christophe, dès le dimanche, donc le premier jour du tournoi, parce que Sonego, c'est un client. C'est déjà lui, Sonego, qui avait battu Hugo Humbert l'an passé à Roland. Donc le bis repetita s'approche.
Très bien, on va te retrouver dans quelques instants, Eric, parce que je crois que tu figures même, c'est ça, le mec dont on ne peut pas se passer, tu figures même dans le journal olympique qui arrive tout de suite, le journal olympique d'Arnaud Valadon. Arnaud Valadon est là pour le journal olympique, salut Arnaud.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Et on va partir retrouver Eric Salio justement.
Mais oui, c'est l'homme de la journée un petit peu.
C'est l'homme de la quinzaine, je dirais.
Exactement, même. Et presque l'homme du tennis toute l'année sur RMC. Eric, on ne va pas évoquer les matchs en cours, mais le cas plutôt de Giovanni Mpetsi-Pericard qui jouera contre David Goffin au premier tour. Eric, le Français a gagné le tournoi ATP 250 de Lyon et cette victoire le place quasi parfaitement dans la dernière ligne droite pour décrocher l'un des 4 quotas olympiques pour les tennismen français.
Ouais, c'est à peine croyable parce que c'est un garçon qui était très loin il y a encore 2-3 mois et là il a fait une opération en or au parc de la Tête d'Or, tiens, il y a un jeu de mots mais il est pas volontaire, puisque quand on regarde le classement de la race olympique qui est pas tout à fait le même que le classement ATP, on a la situation suivante: 16e Hugo Humbert, 21e Adrian Manarino, 34e Arthur Fils, Gaël Monfils et 38e. Donc on a nos 4, sauf que Adrien Meneno, on le sait, ne fera pas les Jeux. Il s'estime qu'il n'est pas au niveau sur terre battue. Donc, la 5e place devient qualificative. Et c'est là que ça devient intéressant. Qui est 5e actuellement? C'est Giovanni Mpetsi avec 786 points. Il a un bon petit matelas d'avance sur Rinderknecht qui est à 737, Cazaux 735. Il ne faut pas oublier Moutet et Gaston. Et j'ai un cas d'école à vous proposer. Imaginez que tous les Français perdent au premier tour à Roland. La course sera finie? Eh bien non. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, il y a des challengers sur gazon dans lesquels sont inscrits les Français.
Mais gazon, donc, ça va compter? Le gazon, ça va compter?
Bien sûr, puisque le juge de paix, Christophe, c'est le classement ATP du 10 juin, au lendemain de Roland-Garros.
Ouais, enfin,
donc tu vois, ça peut se jouer
c'est
ici.
C'est complètement dingue que ça se joue sur gazon alors que le tournoi olympique sera sur terre nature, quoi.
Les points, Christophe, ce sont les points de toute l'année, de toute une année. Donc non, il n'y a pas de débat. La qualif peut se jouer à Surbiton la semaine prochaine, si jamais le scénario est dingue. Maintenant, si Giovanni Mpetsi fait 3e tour et que derrière ça ne suit pas, ce sera plié. On aura nos 4 sélections olympiques, Hugo Humbert, Arthur Fils, Gaël Monfils et Giovanni Mpetsi. Quelle aventure, hein.
Oui, la race olympique, on précise, c'est du Roland-Garros de l'année dernière à celui de cette année.
D'accord.
Voilà, c'est pas le race classique sur l'année civile.
Non, Roland-Garros
adapté.
De l'an dernier ne compte pas.
Non, ne compte pas. À partir du
Du 11 juin 2022, 23. Jusqu'au 10 juin 2024.
Voilà, cette période de qualification.
C'est compliqué, mais je maîtrise.
Absolument, on a tout compris. Merci beaucoup Eric, on te retrouve évidemment tout au long de l'après-midi.
On va parler de triathlon avec une bonne nouvelle puisque Cassandre Beaugrand et Pierre Lecor se sont qualifiés pour les Jeux.
Les deux triathlètes ont glané les points suffisants hier pour sécuriser un quota. Beaugrand a terminé première en battant la leader du classement général Beth Potter. De bon augure avant les JO lors de cette étape de Coupe du Monde à Cagliari en Italie. On écoute Cassandre Beaugrand.
Je suis contente. Je savais pas trop forcément à quoi m'attendre parce que c'était ma première course de la saison, on va dire, sur World Series et ça s'est plutôt bien passé. Donc, franchement, je suis contente. Forcément, je pensais aussi, oui, aux critères d'accès à la sélection, mais c'est vrai que quand je prends le départ d'une course, c'est pour gagner. Donc, j'étais venue chercher la meilleure place possible et ensuite, ça venait en conséquence, en fait, de ma course. Donc, je pense que c'est de bon augure et faut juste que j'arrive en pleine forme et que je ne me blesse pas et que je ne tombe pas malade et puis un peu de chance et je pense que ça sera bien.
Pierre Lecor est donc aussi qualifié chez les hommes. Il l'a terminé dans le top 6. Pierre Lecor, champion d'Europe 2018. C'était un des critères de sélection, à savoir donc atteindre ce fameux top 6. Vincent Louis, Léo Bergère et Dorian Coninx, actuellement blessés, se battent pour les deux places restantes pour les quotas olympiques. Chez les femmes, la sélection fait peu doute. Outre Beaugrand, Emma Lombardi et Léonie Perriot devraient être présentes à Paris. La sélection officielle sera communiquée le 15 juin prochain. Et l'épreuve olympique de triathlon, Christophe, débutera le 30 juillet avec la partie natation dans la scène.
Si tout va bien.
Si tu as prévu de faire des tests de.
Je vais laisser Pierre Abadon y aller le premier. J'irai peut-être après, hein, parce que Pierre, on le sait, c'est son dada. Aller se baigner dans la Seine. Du VTT, Pauline Ferrand-Prévot, superstar.
Elle est en forme et c'est une bonne nouvelle. Elle a gagné l'épreuve de Coupe du Monde, d'étape de Coupe du Monde à Nové Mesto, en République Tchèque, en VTT. Elle avait gagné le court format hier. C'est la 7e victoire en 8 courses pour la française qui a décidé d'opter pour une préparation sur mesure. Elle avait notamment fait l'impasse sur les championnats de France. À Tahiti, la fameuse tour controversée des juges devant le spot de surf du site de Teahupo est opérationnelle. Elle est utilisée actuellement dans le cadre d'une étape du circuit élite mondial. La polémique est complètement enterrée. Déclaration de la présidente de l'association de défense du lieu, opposante initiale au projet. Tony Stanguet est sur place cette semaine. Côté sportif, la Polynésienne Vaine Fiero, sélectionnée pour les Jeux, s'est qualifiée pour la suite de la compétition à Tahiti. En revanche, la Réunionnaise Joanne Defay, présente à Tokyo et qui sera là en juillet, élimination dès les séries. En tennis de table, le pongiste Alexis Lebrun est en finale du tournoi Contender de Taïwan, c'est en Chine. Finale à 14h dans quelques minutes face au Chinois Liang, numéro 4 mondial. L'aîné des frères est assuré de reprendre la place de numéro 2 français au classement mondial devant Simon Gauzier, avec au minimum aujourd'hui 280 points inscrits. Il en avait 232 de retard. Et c'est important car si le cadet Félix, numéro 5 mondial, aura le premier quota pour les épreuves en simple à Paris, il n'y a qu'un deuxième quota pour les pongistes français en individuel. Ça se joue entre donc Alexis et Simon Gauzier. Et là, Alexis vient de reprendre l'ascendant.
Le volet avec l'équipe de France qui dispute en ce moment même la Ligue des Nations. Une victoire hier pour les Français, 3-7-1 face à la Turquie.
En plus, ça se passait en Turquie, des Bleus qui ont joué sans Ervin Engapet. Pourquoi ? Car il est rentré à Poitiers pour porter la flamme dans le département de la Vienne. C'était hier, il n'a donc pas joué, il était juste à Vienne. Il a allumé le chaudron au Futuroscope. La flamme qui se repose aujourd'hui, elle a besoin un petit peu, tu sais, elle est sursollicitée, Christophe.
Il faut qu'elle reprenne un peu de gaz, quoi.
Voilà. Cette semaine, lors de l'étape à Bordeaux, ça c'est beaucoup moins drôle, les autorités ont révélé qu'un homme avait été arrêté. Il planifiait une action violente au moment du passage de la flamme dans la cité girondine. Vendredi, ce sont même deux individus issus de la mouvance islamiste surveillée et qui n'avaient pas respecté leurs contrôles administratifs, qui ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils se rendaient dans une zone qui leur était interdite, toujours en Gironde. Tony Estanguet a réagi sur la sécurité autour du parcours de la flamme.
On le sait depuis le début de cette aventure, la sécurité au jeu, c'est la priorité. Donc je voudrais rendre hommage aux forces de l'ordre qui font un travail remarquable pour justement garantir la sécurité des jeux et de ce relais de la flamme qui se passe vraiment très bien chaque jour. Encore une fois, sur les routes, il y a un vrai esprit de fête, de rassemblement. Moi, j'ai été encore marqué, y compris sur des territoires que je connais très bien, pour y être originaire et y habiter. C'est remarquable de voir toutes les générations, des fans de sport, pas forcément des fans de sport, se retrouver et accueillir ce symbole ultime des Jeux.
Et direction Châteauroux, l'Indre, pour la flamme, avec notamment le site olympique de tir à l'arc.
C'est Michel Denisot qui va lui donner le show, ou Gérard Depardieu,
non, ça va être
Gérard Depardieu en ce moment, il a pas trop la flamme. Merci Arnaud, à très bientôt évidemment pour toute l'actualité olympique. 13h55, on repart à Roland-Garros. Hugo Humbert aux portes de l'élimination, Eric.
Ouais, c'est terrible pour Hugo Humbert, donc il est mené 5-3 dans la quatrième manche. Je rappelle que l'Italien Sonego mène 2-1, donc effectivement, il faut qu'il sauve sa peau. Il est au service, le Messin, pour tenter de retarder l'échéance. C'est dommage parce qu'il y a une belle ambiance, il fait beau. Le Langland est plein à craquer, mais c'est vrai qu'Hugo Humbert manque de repères depuis quelques semaines. Il a été blessé au genou, il a très peu joué, pas de premier tour à Lyon. Il est arrivé à Roland que vendredi soir et il a découvert qu'il jouerait dès dimanche matin, donc préparation pas idéale.
Ah, il n'est pas protégé, lui, hein.
Si, il était de série, bien sûr.
Oui, mais bon, à jouer le dimanche matin quand tu finis vendredi.
En fait, tu sais ce qui. Je pense que la Fédé a voulu marquer le coup puisque c'était l'inauguration du toit Donc ils se sont dit, on va mettre le numéro 1 français derrière. Finalement, c'est magnifique. Peut-être un piège qui s'est refermé là sur Hugo Humbert, qui est à 3 points d'élimination, Christophe.
Bon, eh ben, on revient vers toi dans quelques instants, mais il y a le flash qui arrive, le flash de 14h. On en reparle évidemment tout au long de l'après-midi. Eric Salio qui est avec nous pendant 15 jours pour nous faire vivre ces internationaux de France. À tout de suite sur RMC, juste après les infos.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.